de lire avec moi dans le livre de Josué, au chapitre 20. Josué, chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. » Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. J'aimerais juste, pendant quelques instants, partager quelques pensées au sujet de ces villes de refuge. Vous savez très probablement que c'est dans plusieurs endroits qu'il est parlé de ces villes de refuge. Vous trouvez pratiquement ce même texte dans le livre des Nombres au chapitre 35 et vous avez aussi dans le livre du Deutéronome au chapitre 19 exactement les mêmes choses qui sont dites. Il y a donc là un message qui est important et tout d'abord je voudrais souligner ce fait, c'est que c'est pour le peuple d'Israël dans la chair, un enseignement qui est précieux. Parce que, en fait, je crois que l'Esprit de Dieu voulait souligner d'une manière particulière ce que ce peuple serait pour celui que Dieu allait envoyer en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Et la parole de Dieu met en relief que ils ont agi d'une manière exécrable et nous avons du mal à entendre, je dirais à comprendre la parole que le Seigneur a prononcée lorsqu'il était sur la croix au sujet de ses compatriotes, puisqu'il a prié en ces termes et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et dans le livre des Actes des Apôtres, autant dans la prédication de Pierre que plus tard aussi dans une prédication qui était celle d'Étienne, cet enseignement est repris et ils disent l'un et l'autre, nous savons en effet que le peuple a agi dans l'ignorance. Pourtant, le Seigneur les a avertis plusieurs fois, et nous voyons dans l'évangile de Jean en particulier, au chapitre 8, comment le Seigneur a mis en relief quel était leur comportement et la pensée de leur cœur. Cependant, eh bien, ils sont considérés comme ayant agi dans l'ignorance, agi, je dirais, comme cela, d'une manière involontaire. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que dans le texte, il est dit, ceux qui trouvaient un refuge dans ces villes qui étaient mises à part et desquelles nous allons parler dans quelques instants, ils devaient y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui était établi dans cette ville. Et au moment où il allait y avoir un changement, qu'un nouveau souverain sacrificateur arrivait, alors celui qui avait trouvé un refuge dans cette ville était libre de retourner dans la tribu d'où il venait et dans la ville d'où il venait, comme dans la maison à laquelle il appartenait. Et ça, ça a une signification profonde, parce que nous savons qu'il y a eu un temps où la sacrificature était établie selon l'ordre d'Aaron. C'est cette sacrificature qui a été établie au temps de Moïse. Et puis après, apparu, et notamment nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, un autre ordre de sacrificature. Ce n'est plus la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui veut dire donc qu'Israël, à partir du moment où il va comprendre son erreur, où il va comprendre qu'il a mal agi, qu'il s'est mal comporté, même si ça a été, disons, dans l'ignorance, comme c'est souligné par la parole de Dieu, il va reconnaître celui qu'ils ont percé et ils obtiendront le pardon et la délivrance, puisque, en fait, il y a eu un changement de sacrificature. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'Israël n'est pas sauvé d'une manière différente que nous. Ils sont sauvés exactement de la même façon en croyant en l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Il n'y a pas un privilège particulier qui leur est accordé, et puis nous, nous avons une autre manière d'être sauvés. Dieu sauve Israël comme les autres nations, exactement de la même façon, par le moyen de son sacrifice qui a été accompli sur la croix du calvaire. Mais maintenant, quel est l'enseignement que nous pouvons retirer pour nous et ce que cela peut apporter comme bénéfice pour nos âmes? Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire que les Lévites, qui étaient la tribu choisie pour servir Dieu dans le temple, quand le peuple marchait dans le désert et qu'il n'était pas encore établi dans le pays de la promesse, les Lévites avaient leur tente qui était dressée à proximité du tabernacle. Ils étaient juste à côté du tabernacle. Mais quand le peuple a été réparti dans tout le territoire de Canaan, pays de la promesse, pays que Dieu leur a donné, alors à ce moment-là, il fallait quand même que ces Lévites puissent continuer à exercer leurs fonctions. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces civils, et même plus, parce que dans l'autre passage, il est parlé de 48 villes qui ont été données, mais il y en a 6 particulièrement qui étaient des villes de refuge, qui étaient répandues sur tout le territoire, non seulement sur le territoire du pays de Canaan après la traversée du Jourdain, mais rappelez-vous qu'il y a 2 tribus et demie qui ont demandé à Moïse quelque chose de particulier. Quand ils sont arrivés sur le bord du Jourdain, ils se sont aperçus que la vallée était fertile, qu'il y avait des champs en abondance pour leurs troupeaux, et ils ont demandé à Moïse pour de nous la grâce de rester ici, ce côté de, du Jourdain. Alors, le peuple n'était pas content et ils ont un peu protesté. Alors, ils ont dû faire une promesse. Et ils ont dit, mais quand il y aura un combat, quand il y aura une lutte, quand il y aura une guerre, eh bien, nous retraverserons le Jourdain pour venir à votre aide, vous secourir et nous établissons même une alliance. Et ils ont dressé un autel qui était là comme moyen de rendre témoignage qu'ils n'étaient pas séparés du peuple, malgré que le Jourdain puisse les séparer pendant un temps. Alors Dieu a fait quelque chose. Il a placé 3 villes dans le pays de Canaan, de refuge, et il a pensé à ces 2 tribus et demie qui étaient restées comme ça, de ce côté-ci du Jourdain, et il a mis aussi 3 villes de refuge. Alors, c'est important de savoir cela. Vous voyez, ceux qui étaient restés comme ça de ce côté du Jourdain et qui n'ont pas eu le courage de s'établir dans le pays de Canaan, ce sont ceux qui ont des intérêts matériels. Et ça peut être le partage de beaucoup de chrétiens qui, tout en ayant bien compris le salut et ayant fait une expérience avec Dieu, appartenant quand même au maître et faisant partie du peuple de Dieu, bien sont restés dans certaines limites et n'ont pas le niveau spirituel auquel Dieu voudrait qu'ils soient élevés. Mais c'est leur désir peut-être, comme ça ils voient les choses d'une manière différente, ils sont davantage attirés par certaines choses qui sont d'ici-bas, sans oublier pour autant qu'ils ont aussi un héritage céleste. Et puis il y en a d'autres qui, eh bien, tout en bénéficiant des choses de ce monde, savent que finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on peut jouir de tout ici-bas sur la terre, mais il ne faut pas que cela prenne notre cœur. Et quelques-uns, eh bien, ont leur cœur qui est pris par cela, d'autres ont franchi une autre étape et sont vraiment attachés aux choses d'en haut sans être, je reprends cette expression-là, extravagant au point de penser qu'ils sont infiniment supérieurs aux autres et en méprisant les autres. Vous voyez, la Bible parle de chrétiens qui sont charnels et de chrétiens spirituels. On voit Paul parler aux Corinthiens et il leur dit que certains sont encore attachés à des choses d'ici-bas, mais pour autant, ils ne les rejettent pas, ils ne les méprisent pas, mais ils les exhortent pour qu'ils puissent aller plus loin. Et il y a quand même quelque chose qui est là comme un enseignement, c'est que ces Lévites qui avant étaient autour du temple, maintenant ils sont répartis partout, et c'est eux qui occupent ces villes de refuge. Alors, je crois quand même pouvoir vous rappeler, tout en sachant que vous savez ces choses, parce que vous les avez lues dans la parole de Dieu, les Lévites, c'est ce qui nous représente tous. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas une caste à part maintenant. Il n'y a plus de clergé maintenant. Nous sommes, vous et moi, des sacrificateurs pour le Seigneur. Un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Et nous aussi, eh bien, nous avons trouvé un refuge dans ce que ces villes représentent. Et notre intérêt, c'est de penser à tout ce que ces villes peuvent représenter. Alors, je vais commencer par vous dire, Dieu a fait quelque chose de merveilleux, c'est que les villes qui étaient dans le pays de Canaan, elles étaient toutes sur une montagne. Et vous vous rappelez certainement de ce que Jésus a dit dans les évangiles. Quand il dit une ville qui est sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et notre intérêt, c'est que les gens puissent voir ce que nous sommes quand nous sommes cachés en Christ, mais nous devons pouvoir mettre en évidence ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et justement, le nom de ces villes, c'est bien de considérer ce qu'elles sont. Par exemple, la première ville qui est citée, c'est Betzer, en Canaan. Et Betzer, c'est minerai d'or. C'est en même temps, je dirais, quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que dans la parole de Dieu, l'or, c'est le symbole de la nature divine. Et nous devons être le reflet de ce qu'est le Seigneur. Le but qui nous est assigné dans la parole de Dieu par le Seigneur lui-même, c'est d'être rendu semblable, nous l'avons souvent répété cela, à son Fils bien-aimé. C'est-à-dire que l'intérêt que nous devrions avoir tous, c'est de chercher à ressembler toujours plus au Seigneur. Nous avons reçu une nature nouvelle en Jésus-Christ et cela doit pouvoir être manifeste, cela doit pouvoir être mis en évidence. Et la deuxième ville, c'est Ramoth. Et Ramoth, c'est une signification profonde aussi, ça veut dire hauteur. Et c'est la même signification que Rama. Vous vous rappelez que Samuel, le prophète Samuel, avait sa demeure à Rama. Et il est demeuré d'une manière particulière et il avait même construit un hôtel dans cette ville-là. C'est bien de nous rappeler que le Seigneur, il a été élevé à la droite du Père. Mais nous ne devons pas oublier que la foi que nous avons placée dans le Seigneur nous a mis dans cette position. Si nous sommes cachés en Christ, nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes, dans une position élevée. Et vous savez quel est l'avantage que nous avons quand nous prenons conscience de cela? Je vais vous l'expliquer au travers d'un petit exemple. J'ai lu quand j'étais encore un adolescent la possibilité de monter dans un petit avion. Vous savez, un coucou, il n'y avait absolument rien au-dessus, c'était juste un petit pare-brise qui était devant, le pilote était derrière moi, et il prenait plaisir à prendre comme cela des virages, et moi je me mettais de l'autre côté, et puis je l'entendais crier « Mais regarde, regarde en bas !» Et puis évidemment, quand je regardais en bas, vous voyez, je voyais les cimetières, c'est pas très encourageant, hein. Puis je voyais aussi les voitures toutes minuscules, les maisons toutes minuscules. Je dois vous dire que depuis, je suis monté dans d'autres avions, mais quand on regarde par le hublot, eh bien, on voit exactement les mêmes choses. Tout petit, tout paraît miniature. Des fois, pour nous, il y a des choses qui nous paraissent des montagnes. Et nous prions et nous sommes désespérés. Et on dit, mais comment on va faire? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à cet homme, Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et une des choses que Dieu veut nous permettre de faire comme expérience, c'est de voir les montagnes qui s'élèvent devant nous être aplanies par sa grande puissance, parce que pour lui, rien n'est impossible. Et même s'il ne fait pas disparaître la montagne, il peut tracer un chemin au travers de la montagne pour que nous la traversions et que nous soyons plus que vainqueurs. C'est donc important que nous prenions conscience que nous devons vivre avec lui dans les lieux célestes. Et nous avons à lui demander, apprends-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Et j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, souvent, ceci est mis en relief. Il y a quelque temps, je crois avoir médité avec vous un passage du livre du prophète Isaïe, où dans le chapitre 49, Dieu parle à son peuple. Et il dit, tes murs sont constamment devant moi. Et nous avions remarqué ensemble qu'au moment où le prophète Isaïe parlait de cette manière-là, les murs étaient en ruine, ils étaient anéantis, ils étaient détruits. Mais Dieu parle comme ça, et il dit, tes murs sont devant moi. Comme si finalement, il y avait la négation du fait que les murs étaient en ruine. Vous voyez, Dieu voit la finalité des choses. Nous, nous voyons que le moment présent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons souvent, Dieu est fidèle et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la rendre parfaite. Moi, je pense souvent à cela pour moi-même. Il y a des moments où mon regard introspectif me décourage. Et je me dis, mais il y a encore tellement, tellement de faiblesses, tellement de lacunes. Et quand je pense à ce verset, mais Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait, alors, d'un seul coup, je suis transporté en ce temps merveilleux où la parole de Dieu déclare, quand il paraîtra, tel il est, tel aussi nous serons. C'est-à-dire que toutes nos faiblesses, tous nos défauts, toutes nos limitations auront disparu et nous serons alors comme le Seigneur veut que nous soyons. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tendre à la perfection en ayant cette perspective-là, en ayant cette vision. C'est une vision de hauteur. Il faut vraiment prendre conscience que nous sommes établis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, le malin ne peut pas nous atteindre. Les pensées négatives et le découragement vient quand nous oublions de prendre conscience de la position dans laquelle Dieu nous a mis en Christ. La troisième ville, c'était Golan. Et je dois vous dire que il y a plusieurs significations, mais l'une d'entre elles, c'est passage. C'est un lieu de passage. Un lieu particulier, là, comme celui dans lequel nous sommes. Cette terre, pour nous, n'est pas notre véritable héritage. Nous sommes dans un lieu de passage. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous demande pas de nous attacher à cela. Et vraiment, de pouvoir demander à Dieu d'avoir l'appréciation des valeurs spirituelles. Vous savez, j'utilise souvent cette illustration. On ne tend pas un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Et il y en a d'autres qui disent, on ne fait pas boire son âme quand il ne veut pas boire. Et c'est comme cela, s'il n'y a pas la soif, eh bien, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas comme cela le désir de nous approcher aux valeurs spirituelles, à ce qui est important aux yeux de Dieu. Et Golan, c'est une ville qui se trouvait tout près du mont Hermon. Et vous vous souvenez que dans un psaume en particulier, il est parlé de la rosée qui descend de l'Hermon. C'est là ce que nous avons besoin. Quelqu'un a prié tout à l'heure, et c'est bien juste, en demandant à Dieu, eh bien, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et même la prière était dans le sens de qu'il y ait des personnes qui ne sont pas encore baptisées du Saint-Esprit, qu'ils le soient. Nous avons besoin de retrouver ces valeurs-là, parce que c'est un refuge pour nous, l'action du Saint-Esprit. La chair est inutile dans tous les domaines, mais ce qui est fait par le Saint-Esprit, ça, c'est durable. Et nous savons que tout ce que nous avons demandé au Seigneur dans le moment de prière tout à l'heure, eh bien, ne pourra être accordé que par l'action puissante et souveraine du Saint-Esprit. Par ailleurs, il y a l'autre ville, comme Kadesh. Alors là, Kadesh, c'est une ville qui signifie sainteté ou saint. Or, je me rappelle que l'apôtre Paul a insisté, notamment quand il parle à ses Thessaloniciens, et il leur dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et j'ai justement plié ma Bible sur ce passage qui se trouve aux Thessaloniciens, où Paul exhorte les chrétiens de cette manière-là, et il leur dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, cette sanctification-là, nous devons la saisir aussi par le moyen de la foi. Parce que c'est ce que nous sommes en Christ. Je suis justifié en Christ. Je suis sanctifié en Christ. Je suis glorifié en Christ. Vous allez dire, mais pourtant on n'est pas encore dans la gloire. Oui, mais je le suis en Christ. Pourquoi ? Parce que lui, il est passé devant moi, il m'a précédé. Et l'assurance de mon âme, je la possède comme une ancre que j'aurai jetée dans l'au-delà. Vous savez pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, cette image est donnée, l'ancre solide de notre âme. Je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de partager cela avec vous, mais les grands paquebots, des fois, quand ils arrivent à certains ports, ils peuvent être en difficulté parce qu'il y a certains obstacles et on fait une chose, c'était davantage dans le temps, les gros navires, ils avaient l'occasion de prendre l'ancre qui était sur le pont et il l'a placée sur un tout petit bateau qui était un petit bateau pilote qui passait devant. Lui pouvait éviter, n'est-ce pas, tous les dangers et l'ancre par le câble était reliée au grand navire et c'est comme cela qu'ils atteignaient le port en toute sécurité. Bien, c'est exactement cette image-là que nous avons dans la personne du Seigneur. Il nous a devancés, il nous a précédés, il est passé avant nous par la mort, il est assis à la droite du Père. Et le fait qu'il soit assis à la droite du Père est la garantie qu'il nous amènera là aussi. Et c'est là l'espérance que nous avons par la foi dans notre âme. C'est la raison pour laquelle il faut le suivre fidèlement. Comme le navire suit le petit bateau pilote qui possède l'ancre, nous suivons l'enseignement de Christ, nous suivons la voie que le Seigneur nous a montrée et nous atteindrons le bon port. Est-ce que vous allez être convaincu ? C'est la foi et seulement l'action du Saint-Esprit qui nous permettra cela. Alors, pour suivre l'enseignement du Seigneur, il faut que nous progressions dans la sanctification. C'est de jour en jour. Jamais personne ne pourra dire « Ah, ça y est, j'ai atteint le but, je suis saint ». Vous savez que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il est parlé de ceux qui parlent de cette manière-là. « Je suis saint, ne vous approchez pas de moi, hein. Détournez-vous de moi, je suis trop saint ». Non, jamais personne ne pourra atteindre ce niveau-là. Nous le sommes en Christ, mais jamais personne ne pourra se glorifier dans la chair ici-bas sur la terre. Et nous, notre gloire, c'est Christ. Notre sanctification, c'est Christ. Et nous devons le mettre en relief. Nous devons le mettre en évidence. Mais en même temps, il ne faut pas que nous parlions de sanctification en Christ si nous vivons en contradiction avec sa volonté. Parce que ça, c'est un paradoxe qui ne peut pas être accepté par le Seigneur. Donc vous voyez, cette ville de Kadesh, c'est important. Et il y a aussi Sichem. Il ne m'en reste que deux, puis j'en aurai fini. Sichem et Paul. Et Paul. C'est dans cette ville-là que, et nous en avons parlé dernièrement, un homme tel que Jacob a pris une décision de monter de là jusqu'à Bethel, mais c'est à Sichem qu'il a pris la décision, en parlant à tous les membres de la famille, de se séparer de toutes les idoles, de tous les dieux étrangers. C'est aussi dans cette ville, souvenez-vous, on en a parlé également, qu'un homme tel que Josué a pris des décisions déterminantes. C'est là qu'il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et il s'est adressé à toute l'assemblée en disant « Choisissez qui vous voulez suivre. Si vous voulez suivre d'autres dieux, vous êtes libres. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous voyez, c'est le lieu des décisions importantes. Il y a des moments où nous entendons certaines choses, et nous nous disons, oui, c'est vrai, mais nous en restons là. Nous entendons et nous pouvons même approuver, mais il n'y a pas une concrétisation dans notre vie. Pas de décision qui nous amène vraiment dans une obéissance dans le Seigneur. Et c'est important que lorsque nous entendons quelque chose qui nous frappe, qui met en relief un point dans notre vie, eh bien que nous ne disions pas seulement « c'est vrai », mais que nous disions « Seigneur, que cela soit vrai dans ma vie et dans ma marche ». C'est la même chose pour moi. Que Dieu ne me permette pas d'annoncer des choses que je ne vive pas. Parce que c'est là un problème. Comment il peut y avoir une bénédiction quand nous savons ici et que nous ne vivons pas là? La parole de Dieu doit descendre de la tête dans notre cœur et de notre cœur doit être transformée en quelque chose de concret, de réel, de vécu dans notre vie, notre expérience familiale, notre expérience personnelle, notre expérience au niveau de l'assemblée, de la communauté, et puis aussi au sein de ce monde auquel nous devons rendre le témoignage d'être fidèles au Seigneur et consacrés au Seigneur. Et la dernière ville, eh bien, c'est Hébron, ce qui veut dire communion. Mes frères et sœurs, impossible d'avoir une vraie communion si nous n'avons pas le même objectif, si nous n'avons pas le même centre d'intérêt. Partout où je parle de communion, même dans des fois des entretiens personnels, et quelqu'un d'ailleurs doit s'en rappeler, étant au milieu de nous ici, en ce moment, je dis que les rayons d'une roue, par exemple de bicyclette, eh bien, sont plus près les uns des autres au centre et à la circonférence, eh bien, ils sont plus éloignés les uns des autres. Si nous vivons éloignés du Seigneur, nous allons nous éloigner automatiquement les uns des autres. Mais si nous recherchons ensemble le Seigneur, qu'il est notre centre d'intérêt, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons près les uns des autres. Vous savez, ce que Dieu ordonne, je l'ai souvent dit, eh bien, il le donne. Ce n'est pas une question seulement de volonté personnelle. Il y a la volonté de départ. Mais en même temps, si nous consentons à ce que Dieu dit, il va nous communiquer la force pour atteindre le but qu'il nous a assigné. C'est lui qui fait cela. Je reprends un exemple tiré des évangiles. Quand il parle, par exemple, à celui qui a une main sèche, il lui dit « Étends ta main ». Normalement, celui qui a la main sèche aurait dû dire « Je voudrais bien, mais je ne peux pas ». Et en même temps que le Seigneur lui dit « Étends ta main », sa parole lui a communiqué la foi pour le faire, pour obéir, et il a étendu la main et il était guéri. Quant au paralytique, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Normalement, le paralytique aurait dû dire « Je voudrais bien me lever, prendre le lit et marcher, mais je ne peux pas ». Mais la parole du Seigneur est esprit et vie, c'est-à-dire que quand on la reçoit dans notre cœur, pas là, mais dans notre cœur, elle se transforme en une, je dirais, puissance qui nous permet d'obéir. La parole de Dieu, nous disons, c'est une nourriture. De la même façon que nous prenons une nourriture et que cela se transforme en énergie sur le plan physique, quand nous la recevons dans notre cœur, elle se transforme en une énergie spirituelle qui nous permet de vivre cet ordre que l'on reçoit de la part du Seigneur. Il n'y a pas d'effort à faire pour maintenir la communion quand nous vivons près du Seigneur. Je peux aimer tous mes frères et sœurs qui vivent en communion avec le Seigneur et je serai toujours près d'eux. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas aimer les autres, je vais les aimer. Mais mon devoir alors ce sera de leur montrer que le rapprochement ne sera possible vraiment que dans la mesure où dans leur vie aussi le centre sera Christ. C'est pourquoi nous devons vraiment être en harmonie avec cet enseignement de Paul qui dans une certaine épître dit « qu'en tout Christ soit le premier ». Alors vous comprenez bien que quand cela est vécu, alors il n'y a pas d'effort à faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander au Seigneur eh bien, d'anéantir dans notre vie et dans notre cœur toutes les pensées qui sont contraires à sa volonté pour que cela se concrétise dans notre vie. Nous avons un privilège formidable. C'est ce refuge que Dieu nous a donné. C'est les Lévites qui étaient dans ces villes. Nous avons un refuge formidable. Le nom de l'Éternel, dit la Bible, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Et bien sûr que plus d'une fois, bien, nous avons pu être comme celui qui a commis un meurtre involontairement. Et d'ailleurs, la parole de Dieu décrit comment cela pourrait se faire. La parole de Dieu décrit quelqu'un qui est en train de travailler avec une hache et le fer, sans s'en rendre compte, est en train de glisser. Il va partir, il va frapper une personne à côté, elle va mourir. Et celui qui a causé l'accident ne l'a pas fait exprès. C'est quelque chose qui est involontaire. Mais nous, nous savons que tout en travaillant, n'est-ce pas, dans le service de Dieu, nous pouvons peut-être blesser, faire du mal. C'est possible. Mais quel refuge nous avons dans le Seigneur. Celui qui est blessé, il peut trouver un refuge auprès du Seigneur. Celui qui blesse trouve le même refuge auprès du Seigneur. Et puis on va se retrouver où? Eh bien en Christ. Et l'affaire sera réglée, ce sera terminé. Vous voyez comment on peut, dans le fond, triompher dans l'Église du Seigneur. Oui, nous avons un refuge, il faut que nous en profitions. Que Dieu vous bénisse.